principe actif.
Au niveau de la radio, ça change un peu parce qu'on était à l'époque à l'écoute de... On trouvait ça un peu ragard et on voulait que ça change. Donc on a décidé de créer notre radio à nous.
Principe actif, le mix des cultures.
Séquence Nostalgie, aujourd'hui sort sur les écrans le nouveau film d'Alain Corneau, Le Nouveau Monde, histoire d'adolescents qui découvrent les soldats américains, les GI, dans les bases alliées installées en France après la Deuxième Guerre mondiale. Le souvenir reste vif, par exemple, à Évreux, où était installé un immense terrain d'aviation américain.
On a coconut island, I'd like to be a castaway with you. On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. I would linger a while and just gaze into your lovely eyes of blue. Then I'd walk for a mile and come running back to be with you. There, the waves would make a pair of willing slaves of you and me forever. And for days and days and days we'd never gaze out where the ships go sailing by. On a coconut island, I'd like to be a castaway with you. On a coconut island, where we could make our dreams come true.
On a coconut island, I'd like to be a castaway with you. On the coconut island, there wouldn't be so very much to do. I would linger a while, just gaze into your lovely eyes of blue. And I'd walk for a mile and come running back to be with you. Then the waves would make a pair of willing slaves of you and me forever. And we'd laze for days and days and never gaze out where the ships go sailing by. On the coconut island, I'd like to be a castaway with you. Just to bask in your smile and to realize my dreams come true.
Slaves of you and me forever. And for days and days and days we'd never gaze out where the ships go sailing by. On Coconut Island, I'd like to be a castaway with you. Coconut Island, baby, we could make our dream come true, baby.
Et c'était Louis Armstrong pour ouvrir cette nouvelle édition Tour de Piste, puisque de la présence américaine à la base 105 d'Evreux au milieu des années 50 à l'apparition des Teddy Boys dans les années 80, la Normandie et Evreux en particulier ont été marqués par la culture populaire outre-Atlantique. Très vite, la jeunesse normande s'est emparée d'un style de vie synonyme de divertissement, notamment à travers sa musique, jusqu'à former leur propre groupe. Observateur et acteur privilégié de cette période, Alain Lambert est mon invité de l'émission Tour de Piste ce soir jusqu'à 21h en direct sur les ondes de Principe Actif.
We'll be right back.
Glenn Miller pour illustrer la présence américaine au milieu des années 50. Très heureux de t'avoir, Alain,
oui,
sur le plateau. Hein. C'est ta première radio, on dirait,
oui,
au micro,
absolument.
En tout cas. Hein. Donc, on ne te présente plus, tu es un acteur et un témoin privilégié de cette période-là.
Mm-hmm.
Tu avais 11 ans à l'époque, à l'arrivée des Américains à la BA 105. Est-ce que tu peux nous décrire ce que ça a pu susciter chez toi ?
Mais écoute, tout de suite, l'envie, parce que c'était des gens qui avaient une vie complètement différente de la nôtre. Ils avaient déjà des voitures. Pour un gamin de 11 ans, tu voyais circuler dans Évreux des voitures qui étaient double ou triple longueur que des voitures françaises. Et les couleurs des voitures et puis le look des Américains. C'était les Américains. Donc, et ça suscitait évidemment beaucoup d'émerveillement et de curiosité de la part des jeunes Français comme moi. Quoi. Voilà.
Alors, c'est l'Europe de l'après-deuxième guerre mondiale, les bases de l'OTAN en pleine guerre froide. L'après-guerre et les années 50 sont d'abord marquées en Europe par l'austérité. Le mode de vie à l'américaine correspond aussi au désir d'une jeunesse en quête de divertissement et de consommation. Comment ce mode de vie est considéré par la population d'Evreux à ce moment-là, au milieu des années 50 ?
Je ne sais pas trop, parce que moi j'ai 11 ou 12 ans, disons, même je suis en 6e quand je rencontre mon premier copain américain à la Sablonnière. Je me promène en vélo et il y avait des Américains qui jouaient au baseball dans la rue, comme ça, et je m'arrête avec mon vélo, puis je causais quelques mots d'anglais, j'étais pas très bon à l'époque. Et donc je m'immiscie dans le groupe, et puis il y a un des Américains avec qui je sympathise assez rapidement, et c'est comme ça que tout a commencé, l'amitié franco-américaine en ce qui me concerne. Voilà, et les Américains, mais c'est vrai, c'était exotique pour nous. Puis je sais pas, nos parents nous en ont parlé, on savait déjà qu'ils avaient débarqué en Normandie pour libérer l'Europe, enfin pour aider les et se débarrasser des nazis, et nous aider, nous, les Européens. Et donc, on avait... ce qu'on peut dire, c'est quand même, au départ, on était impressionnés par toutes ces choses qui nous venaient d'Amérique, toute cette légende qui s'est révélée assez exacte, d'ailleurs, puisque c'était des gens qui roulaient un peu carrosse par rapport à nous, quoi. Je veux dire, ils avaient d'autres moyens. Hein. C'était des gros moyens, des gros avions, des grosses voitures. Tout était comme ça, voilà.
Et je sais qu'enfin, Évreux a été bombardé d'abord par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, la base d'Évreux a été française, puis allemande, puis américaine. Elle a ensuite été bombardée par les Américains.
Évreux, j'imagine
qu'il y a une partie de la population qui devait regarder les Américains, notamment les Noirs américains, comme
mauvais oeil. Non, spécialement chez nous, c'était pas ça du tout. On n'avait pas cet esprit raciste. Et puis, nous, on était jeunes, c'est ça. On n'avait pas vécu tout ça. C'est-à-dire, les gens qui ont malheureusement souffert des bombardements, et des Allemands d'abord... en 1939 et les Américains en 1944, je crois. Parce que les Américains, eux, ils visaient la gare. Les Américains, donc, mais comme ils lançaient leurs bombes, et évidemment, ça faisait énormément de dégâts collatéraux. C'est-à-dire tout le quartier de la Madeleine, Saint-François, tout ça, ça a été démoli. Il y a eu plusieurs centaines de morts. Et moi, où j'habite actuellement, au village de la Forêt, qui est un ancien village américain du temps de la base de l'OTAN, et il y a encore dans la forêt, elle est truffée de trous, c'est les bombes. Donc on peut voir qu'évidemment, ils n'ont pas raté vraiment leur cible, mais il y en a eu beaucoup de bombes qui sont tombées à côté et qui ont fait énormément de dégâts à l'époque. Mais nous, on ne pensait pas à ça parce qu'on n'avait pas vécu. Il y avait les Américains sûrement qui détestaient, les Français, je veux dire, qui détestaient les Américains, c'est fort possible, parce qu'il y a eu des morts. Mais nous, on était trop jeunes pour avoir vécu ça. Donc nous, c'était le côté... magique Amérique, l'Amérique.
C'est plutôt les jeunes générations qui ont profité de cette présence américaine. Bon, écoutez, un illustre musicien américain qui a posé les bases de beaucoup de choses, il s'agit de Buddy Holly, Peggy Sue sur les antennes de
Principe Actif. Je connais, c'est un de mes premiers morceaux que j'ai joué à la guitare quand je me suis mis à la guitare à l'époque où j'étais scout. Et un des premiers morceaux que je joue encore de temps en temps pour faire rigoler les amis, mais moins en moins, mais j'ai longtemps, c'était un des premiers morceaux que je jouais à la guitare. Peggy Sue, c'était Buddy Holly avec ses lunettes foncées noires, qui est malheureusement mort, comme tout le monde sait, dans un accident d'avion, et qui n'a pas eu une longue carrière, mais qui a laissé beaucoup de traces.
Ça a été pour l'ensemble, hein, mais même pour les groupes d'Evreux qui ont imité les Américains, ça a été des carrières assez furtives.
Oui, c'est vrai, il y a eu pas mal. Enfin, bon, voilà. Buddy Holly est mort assez rapidement, malheureusement. Mais il a laissé, entre autres, Peggy Sue, That'll Be the Day, des choses comme ça.
Without Peggy, my Peggy Sue. Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, 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 pretty Peggy Sue. Oh, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue.
I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. I want you, Peggy Sue. I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you.
C'était Buddy Holly, Peggy Sue sur les ondes de Principe Actif pour la spéciale Rock en Normandie de 55 à 82 avec Alain Lambert comme invité. Peggy Sue, un morceau que tu as joué en tant que batteur, parce qu'avant d'être journaliste...
Non, non, guitariste
en
d'abord.
En tant que guitariste ouais, d'abord.
Plutôt, parce que j'aimais bien, il y a quatre accords en tout. Non, à un moment donné, il y a un changement de ton, mais sinon c'est très facile à jouer. Puis moi, Buddy Holly, ça a été un des... Avec Elvis Presley et Eddie Cochran, des gens comme ça, ça a été le début de ma passion pour la musique américaine. Et donc voilà, Buddy Holly, je ne sais pas pourquoi j'aimais bien Buddy Holly, mais quand on a 11-12 ans, et j'étais scout, j'avais une guitare, donc les feux de camp, je chantais quelques morceaux de Buddy Holly et comment dirais-je de Chuck Berry aussi, voilà.
Chuck Berry, on les écoutera peut-être oui. Hein, tout à l'heure en suite d'émission. On va revenir justement à cette présence américaine dans les années 50. C'est, alors j'aimerais bien savoir comment ça se passait la cohabitation franco-américaine, parce que les Américains quand même ils sont assez fidèles à leur habitude et ils ont tout intégré et vivaient pour la plupart en autarcie. À quel moment pouvait-on les rencontrer dans Évreux?
Alors, ils venaient à Évreux, se promener, faire du cruising, là, comme en Amérique, c'est-à-dire faire des chartraines avec leurs grosses voitures. Mais alors, il y avait deux. À Évreux, si tu veux, il y avait deux sortes d'Américains, entre guillemets. C'est-à-dire, il y avait les hommes de troupe, ou les célibataires, et les familles. Alors, les familles étaient logées dans trois villages. Donc, les familles, elles vivaient vraiment en autarcie. C'est-à-dire que souvent, c'était le père qui travaillait, la mère, c'était très rare que la mère ait un emploi. Donc, ils suivaient, parce que ce sont des gens qui faisaient en général 2 ou 3 ans dans une base de l'OTAN, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne ou en Grèce, partout où l'OTAN s'était implantée. Alors, les femmes restaient à la maison en général, et puis les gamins allaient à l'école, à la base, pour les plus jeunes, et à côté de Dreux, à Dreux pour les plus âgés, l'âge du collège-lycée. Et sinon, les Américains, qu'est-ce qu'ils fréquentaient, les Américains célibataires et jeunes? Ils fréquentaient les bistrots, les boîtes, les choses comme ça, les bars, quoi. Voilà, on les voyait pour ça. Et puis, ils draguaient les Françaises, quoi. C'est surtout ça, l'arrière-pensée de la chose. Mais sinon, les familles, elles, vivaient vraiment un peu en autarcie, parce qu'il faut dire qu'à la base, il y avait tout. Du bowling à la piscine, en passant par un cinéma, un club pour genre de MJC à la française, ou pour les jeunes, pour les ados. Il y avait des PX. PX, c'était des magasins pour tout, pour les vêtements et tout l'électroménager, pour les fringues, j'ai déjà dit. Et il y avait des PX pour la boisson, pour les cigarettes. Ils pouvaient vivre je veux dire, sans acheter aucun produit en France. Tout était livré. Le lait était livré tous les jours. Il venait de Hollande, déjà dans des emballages en carton, comme des briques, comme on voit chez nous, quelques années après. Et comment dirais-je, il y avait beaucoup de congelés aussi, des dindes, tout ça pour Thanksgiving, même pour. Et les Américains, ils se fournissaient uniquement. Ils vivaient vraiment en autarcie, oui, quand même, en grande partie. Il y avait des familles françaises qui fréquentaient des Américains. Mes parents fréquentaient les Américains par mon intermédiaire, parce que moi, je commençais par connaître les gamins, et ensuite, je connaissais les parents, et ensuite, je leur faisais connaître les miens. Mais dans l'ensemble, les Américains ils vivaient très dans leur village et ils faisaient leurs occupations étaient sur la base. Il y avait une église sur la base. Il y avait tout sur la base.
Et tu fais partie des Hébreuxiens qui ont eu la chance de pénétrer à la BA 105.
J'y allais très souvent. Très parce souvent. Comme j'étais jeune, c'est-à-dire à partir de 11 ans jusqu'à l'âge de. Je faisais partie des familles américaines. Ils intégraient. Si tu parlais anglais et que tu étais pas trop farouche, alors on était vite intégré dans une famille par l'intermédiaire du gamin, du jeune de ton âge avec qui tu avais fait connaissance. Et alors les parents, ils t'accueillaient toujours à bras ouverts. Moi, ça m'arrivait des tonnes de fois de manger. Ils mangeaient de bonne heure. Ils mangeaient vers 18h, 18h30 au plus tard. Et moi, je restais exprès parce que j'aimais bien découvrir leur nourriture. Ils mangeaient déjà des T-bone steaks, des petits pois surgelés. Ils mangeaient des patates dans de l'alu. Ils faisaient des barbecues. C'était les champions du monde du barbecue. Et ils faisaient des ribs, tout ça, plein de choses. Et on buvait souvent du lait ou du thé glacé, selon ce qui venait du sud ou de quelle région d'Amérique ils venaient. Et moi, j'adorais rester pour manger chez eux. Et je me souviens une anecdote comme ça en passant. Je mangeais souvent chez un monsieur qui avait sa femme. Il avait dû se fâcher. Elle était repartie aux États-Unis. Bagley, c'était un commandant. Il était instructeur, pilote instructeur. Et on allait chez lui. Son fils s'appelait Bill. Il avait deux sœurs. Et j'allais souvent chez eux parce qu'il avait été sacré champion du Texas, de le barbecue. Il faisait à manger très bon, de très bonnes choses. Et ce monsieur, quand il rentrait de la base, il disait toujours « Hey Alan, you stay with us ». Alors je restais, ouais. J'étais en vélo et j'avais emmené un copain un jour. Et il avait pris goût, si Jean-Marie. Et j'en montais. Et ce copain, au début, quand il rentrait chez lui vers 7h30, il disait pas à ses parents qu'il avait mangé chez l'Américain, alors qu'ils en étaient mis jusque-là. Et il était obligé de manger. Puis un jour, ses parents lui ont dit « Mais t'as pas d'appétit, j'ai envie, t'es malade, etc. » Il a été obligé de leur dire que... Alors, le commandant Bailey, quand il voyait qu'on avait trop mangé, qu'on était un peu fatigué pour pédaler, il avait une énorme voiture, il ouvrait le coffre, il mettait nos deux vélos dedans et il nous ramenait chez nous. Et mes parents, je les avais vite prévenus qu'ils ne s'inquiètent pas. Et c'était une époque aussi où nos parents ne s'inquiétaient pas parce qu'on rentrait un peu, pas au moins à l'heure, ou enfin, qu'on était parti toute la journée. Je veux dire, il n'y avait pas de danger, comme on dit maintenant, un petit peu. On était assez libre. Et bon, mes parents, moi, je les prévenais. Quand je rentrais, je ne mangeais pas une deuxième fois, parce que ce n'était pas possible. Mais moi, j'aimais bien découvrir la civilisation américaine par le biais de ces gens qui habitaient et qui gardaient leur mode de vie, hein, vraiment, complètement. Ils sont très peu s'adaptés au mode de vie français. Aucun, même pratiquement. Très peu, très très peu. Thank you.
un des musiciens qui est venu jouer avec les Everly Brothers, entre autres, et Bill Haley, me semble-t-il, à la BA 105. Il y avait très peu d'élus parmi les Hébreuxiens pour pouvoir voir ce concert. Mais je tenais quand même à le signaler, Fats Domino est passé à Évreux un peu après sa période de gloire.
Très bien.
Et on va revenir justement à cette base 105. Alors, il y a une construction de bungalows à Saint-Michel. Je pense qu'elle a favorisé la propagation des éléments de la culture américaine, puisque les Américains sortent enfin de la base 105 pour habiter près de la population hébreuxienne. Il y a deux clubs qui s'opposent à ce moment-là. Il y a le Dancing des Sports et l'Escapade. Toi, c'est des clubs que tu as connus. Est-ce que tu peux m'en parler et puis décrire un peu l'ambiance qui régnait dans ces endroits?
Alors, c'est à Évreux, ce qui a surtout marqué la population, enfin, je veux dire, le microcosme local, c'est l'Escapade. Parce que l'Escapade, c'était un dancing qui était au bout de l'avenue Foch. Et c'était un dancing, au départ, c'était un mini-golf. Et monsieur et madame Ben Raïs, qui étaient les patrons de cet établissement, monsieur Ben Raïs s'est tué en voiture très peu de temps après que je découvre l'existence de cet endroit. Et c'était un endroit qui était surtout consacré à la musique noire américaine et qui était réservé en priorité réservé entre guillemets, c'est-à-dire que oui, tous les noirs américains de la base se retrouvaient là. Alors ça attirait un peu les Français parce que c'était encore une fois l'exotisme, c'était la musique black américaine, le rhythm and blues à l'époque, et le blues, mais surtout le rhythm and blues, le jazz aussi. Et c'était un endroit très bas de plafond, c'était une vraie boîte dancing avec un parquet pour. Et il y avait d'excellents orchestres, les Ebonites entre autres, qui étaient un orchestre. Et alors, quelques Français sont greffés au fil des années là-dessus, ont joué avec ces gens-là. Mais c'est devenu très vite une boîte courue et les gens venaient même de la région parisienne parce qu'il y avait une musique excellente. Excellents musiciens et il y avait une ambiance. Et puis les Noirs dansaient, il y avait beaucoup de filles blanches qui dansaient avec les Noirs, et les Noirs, ils dansaient le bop d'une manière vraiment typique, très, très, très swing, etc. Et moi, j'adorais y aller, et j'avais un léger passe-droit, parce que j'étais jeune à l'époque, hein. Maintenant, on ne m'aurait pas accepté, c'est que je connaissais les gars Ben Raïs, les deux fistons, surtout le plus jeune, parce que j'allais au lycée avec lui. Voilà. Et il y avait le Dancing des Sports.
Et il y a le Dancing des Sports qui était tenu par la famille Jouvion, me semble-t-il.
C'est possible, et je ne me souviens plus du nom des patrons. Alors lui, j'ai moins fréquenté cet endroit-là, il a duré moins longtemps, mais c'était là où on trouvait les musiciens, en général les musiciens blancs, et des musiciens qui qui étaient engagés pour jouer pour le mess des hommes de troupe sur la base, et qui descendaient en ville et qui jouaient. C'était beaucoup d'Anglais qui jouaient, des Blancs. Et il y avait beaucoup de blancs. C'était plus blanc.
C'était une musique plus proche des traditions aussi, non ?
Non, des musiques plus rock'n'roll. Mais rock'n'roll, déjà, on sentait poindre le début des Rolling Stones, le début des Kings et compagnie. C'était plus. Moi, ce que j'ai pu en voir, c'était plus tard comme musique. Mais l'Escapade, ça a été l'endroit où. C'est ce qui a marqué le plus, moi. Moi, ce qui m'a marqué le plus, hein. Au niveau musique. Mais c'est ce qui a marqué le plus Évreux à l'époque. Hein. Je veux dire, le samedi soir, l'Escapade, c'était blindé. C'était un monde fou. Il y avait énormément d'Américains. Petit à petit, certains Blancs américains sont venus.
Parce que finalement, on parlait du racisme tout à l'heure en début d'émission. Le racisme, il vient plutôt de la part des Américains, finalement.
Ah oui, les Américains, il y avait beaucoup de Blancs américains qui n'aimaient pas les Noirs. Hein. Moi, je suis témoin de tas de réflexions chez les gens chez qui j'allais. Les gens du Sud ou des gens. Ils n'aimaient pas. Non, il y avait une ségrégation terrible. Hein. Oui, bien sûr que oui. Ça existait. Hein. Moi, je connaissais des gens qui n'aimaient pas du tout les Noirs. Hein. Alors, ouais, ils n'aimaient pas. Hein. Tu parlais avec eux, les Américains. Ils ne pouvaient pas les sentir. Hein. Mais bon, moi, j'étais encore jeune. Moi, je m'en foutais de tout ça. Franchement.
Oui, c'est parti. Moi, ce qui
m'intéressait, c'était de m'amuser, d'écouter de la musique, prendre du bon temps. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, quand on est ado comme ça, on n'a pas une grosse réflexion là-dessus. On prend le temps comme il vient et on s'amuse. Quoi. Always moving around. As the weeks go by, I feel
comes down to the train with a tear in her eye. She breathes a sigh. I can hear my baby say, well, she'll say, honey, honey, please don't go. Don't you know I love you so? How can all of go if you bye bye, baby? Well, honey, honey, say you stay. Please don't ever go away. He's got a dread today. Visualize my baby, I can almost hear her cry. I try hard not to listen, turn my head away. But each chug chug of the choo-choo train, I can hear my baby say, well, she'll say, the honey, honey, please don't go. Honey, I love you so. How can all of go? Well, honey, honey, say you'll stay. Please don't ever go away. He's got a dread today. Oh, that you bye-bye, baby, baby.
Eddie Cochran, Don't Bye Bye Baby. On parlait justement de la ferveur du rhythm and blues qui devient le rock and roll. En voilà une parfaite illustration. Une autre question que j'avais envie de te poser, Alain, pour cette spéciale rock en Normandie. Où est-ce que toi tu peux trouver des disques? J'imagine toutes ces stars-là, évidemment, tu as eu envie de te les approprier et les écouter à la maison. Où est-ce qu'on peut trouver les disques de tous ces artistes américains à ce moment-là, à Évreux?
Chez les Américains. C'est des singles, c'est de face. Et tous mes copains américains en ont plein. Et en général, ils sont très généreux parce qu'ils m'en donnent. Ils m'en donnent beaucoup. Et donc, j'écoute aussi bien Brenda Lee que Chuck Berry, Ricky Nelson et tous ces gens-là. Et de temps en temps, quand j'ai besoin un peu de sous, je les vends 5 francs les 3 au lycée. Et je regrette parce que...
Tu aurais dû les garder.
Enfin, j'aurais mieux fait de les garder parce que maintenant, ce sont des pressages assez, assez rares, je pense. Mais à l'époque, je garde les bons. Mais bon, j'ai même eu des 33 tours d'Elvis Presley, des 33 tours de Chuck Berry. Parce que mes copains américains, les Américains étaient généreux. Ils m'offraient plein de choses comme ça. Ils m'aimaient bien, probablement. Mais malheureusement, je n'ai rien gardé parce que quand on est l'aîné d'une famille et qu'à un moment donné, on quitte la maison, on laisse beaucoup de choses. Et puis les parents, les frangins, ils les écoutent, les disques, ou puis ça disparaît pendant les déménagements. Mais tu sais comment ça se passe. À un moment donné, on fait du vide dans la tiroir et tout. Puis à l'époque, personne ne pense que ça peut devenir des antiquités, quoi. Voilà, c'est tout. Mais moi, j'avais énormément de... Surtout des singles, des 45 tours. Ça, alors là, ils m'en filaient beaucoup. Des comics aussi, des vieux Marvel et tout ça, j'en avais des piles. Et des catalogues que j'adorais, c'était le catalogue de Sears and Roebuck. C'était les catalogues genre La Redoute américaine, mais énorme. C'était des dictionnaires où tu trouvais aussi bien... des vitamines, que des vêtements pour hommes, pour femmes, que des guitares, des batteries, des jouets, un tas de trucs. Moi, c'était ma Bible, ça. J'adorais lire ça. Je passais des heures à lire ces bouquins comme Manu France. Beaucoup de gens de ma génération aimaient beaucoup aussi. Mais les Américains avaient des catalogues extraordinaires.
Jumping little record, I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over.
Over Beethoven, they're rocking in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven.
C'était l'inaltérable et l'indémodable Roll Over Beethoven de Chuck Berry. Chuck Berry, grand guitariste et un des pionniers du rock'n'roll pour cette spéciale Évreux à l'heure américaine. Chuck Berry a influencé nombre de jeunes artistes, dont un en particulier qui est devenu une star. Il s'agit de Jimi Hendrix. C'était le jeudi 13 octobre 1966. Ça fait 50 ans maintenant. Ça fait 50 ans en octobre dernier. Premier concert pour le Jimi Experience. Ça se passe au Novelty, en première partie de Johnny Hallyday. Et toi, tu es là, Alain.
Je suis venu voir Johnny. Ah, parce que Johnny, il a, comment dirais-je, deux musiciens. Tommy Brown et...
Noël Redding, non? C'était pas Noël Redding, pas encore.
C'est Hendrix, ça. Non, mais Johnny Hallyday, il a un groupe qui s'appelle, un groupe avec des cuirs et tout ça, qui s'appelle les Blackbirds. Il y a deux musiciens anglais, Tommy Brown, le batteur, et le guitariste. D'un seul coup, j'ai un trou de mémoire terrible. Bref, moi, je vais voir ces gens-là. C'est pas que Johnny m'a... J'aime bien Johnny. J'aime bien, je trouve que c'est bien un bon rocker.
À sa manière, à la française, il incarne vraiment cet esprit américain.
Et il jouait son tube à l'époque, c'était Black is Black. Un truc de Los Bravos. Mais en français, avec la traduction française. Bref, et on y va avec ma future épouse, Muriel. Et on s'assoit. Et en première partie, on voit arriver un grand Black avec les cheveux tout crêpés et avec une strato blanche de gaucher, un gros ampli Marshall 3 corps. Et la première chose qu'il fait en arrivant sur scène, il met les potards à fond. On le voit, il tourne le potentiomètre de volume très fort. Et d'un seul coup, ça part. Et là, on reste scotché sur notre siège. Je peux dire une chose, c'est que j'ai vu quelques musiciens dans ma vie qui m'ont impressionné. Mais le premier, celui qui restera longtemps dans ma mémoire, c'est Jimi Hendrix. Alors, il y a Noël Redding à la basse et puis Mitch Mitchell
à la batterie.
Et ça déménage à trois comme pour... C'est pas possible. Donc, il joue. Alors, Hendrix, il fait tout son show avec la guitare derrière, les dents, tout. Et tout le monde risque... Enfin, les gens sont surpris. On sait pas qui c'est. Voilà. Et on attend l'entracte. Et l'entracte arrive. Et Jimi Hendrix, il passe à côté de moi avec sa veste en daim marron avec des franges genre trappeur. Et il va dans le hall du Novelty et c'est là que tout le monde parle. Et on regarde, il y avait marqué sur un bout de papier au feutre ou je ne sais pas quoi, première partie de Jimi Hendrix, ce qui était, personne ne savait qu'il y avait ça, ça a dû être décidé au dernier moment. Et là, tous les musiciens se mettent à causer, les musiciens d'Évreux, ceux qui ont des groupes, tout ça. Et bah, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui vient de voir. Première partie
de Johnny Hallyday, oui, c'est peut-être alors, un peu, alors, il y a des gens pour qui c'est un peu trop nouveau.
Je défends Jimi Hendrix. Et il y a un de mes potes qui est guitariste et qui fait partie d'un des groupes les plus connus du coin. Il dit, mais c'est un clown, il mord sa guitare, c'est nul. Et tout. Je dis, non, c'est quand même, non, mais ça c'est rien, c'est anecdotique. C'est quand même, on en a pris une claque. Hein, et on ne sait pas ce qui va devenir Hendrix. Et on le sait, quoi, trois semaines après. Quoi. Mais c'est vrai.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion,
I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Voilà la révolution à Jimi Hendrix en octobre 66, le 13 précisément, pour une première partie de Johnny Hallyday. Tu me disais, Alain, de la batterie, il en met partout. Ça commence à être éthéré. Enfin, on sent qu'il y a un changement d'époque.
Oui, oui, le batteur et puis le bassiste. Mais c'était un soutien énorme pour Hendrix qui pouvait se balader comme il voulait avec sa guitare. Sa guitare, je l'ai déjà dit, c'était le prolongement de son corps, sa guitare. On a l'impression qu'il pouvait... Il pouvait tout faire et il pouvait jamais il se tromperait. Quoi. Voilà, c'était.
Et c'est terriblement sexuel.
Moi, peut-être pour une femme, je sais pas trop. Moi, j'ai pas pensé à ça. J'ai écouté. C'est surtout le son, parce qu'il se servait énormément du feedback, toi, de la scène. C'est-à-dire qu'il jouait, il se mettait devant l'ampli, toi, et il jouait plus avec la main droite. Enfin, plutôt la main gauche puisqu'il était gaucher. Et il jouait qu'avec la main, les doigts sur les cordes, et ça marchait tout seul, ça. Et puis après, il reprenait son tu vois ce que je veux dire, il jouait beaucoup avec le Larsen, avec le feedback, avec son ampli, en se mettant devant, plus loin, plus près. Non, il était novateur.
Au Novelty, à ce moment-là, dans les salles de concert, qui fréquente les salles de concert? C'est plutôt la classe moyenne, plutôt masculin, plutôt féminin?
Les deux. Beaucoup de jeunes.
Beaucoup de jeunes.
Bah, les gens qui aiment Johnny, les gens qui aiment qu'aiment les artistes. Tu sais, au Novelty, à Évreux, des gens comme Montand, des gens comme Édith Piaf, des gens comme Julien Clerc, les Chaussettes Noires. Moi, j'ai vu les Chaussettes Noires avant que Eddie Mitchell les quitte pour faire une carrière en solo. Moi, j'ai vu John Lee Hooker, des gens comme ça. Parce qu'à cette époque-là, c'était la salle, c'était le cadran, c'était la salle de concert. Et on pouvait voir des grosses vedettes internationales, enfin nationales et même internationales, qui faisaient un peu avant avant de passer à Paris dans les grands théâtres comme l'Olympia, ils tournaient en province, ils rodaient leur spectacle.
Et puis Évreux, de ce point de vue-là aussi, ça bénéficie d'une situation géographique privilégiée avec la proximité de Paris.
C'est tout à fait, probablement. Oui.
Premier festival 1963, le premier festival d'Évreux. Hein. Je ne sais pas si tu as eu la chance
oui,
de participer. Il y avait 350 personnes.
C'était Richard Louapre, mon ami Richard, qui a écrit un livre très intéressant là-dessus, sur le rock des années 50-60 en Normandie.
Et une histoire du rock en
voilà, Normandie. Et c'est lui qui avait organisé ce concert à l'abordage. À l'époque, ça s'appelait la salle Omnisports. Hein. C'était une salle de bal, c'est beaucoup, tout près de la piscine. Et donc, ce jour-là, il y avait plein de groupes, dont le groupe Évreux, les vedettes, c'était les Black and White.
Quoi la musique, c'est vraiment la discipline de l'entente raciale. Hein.
Ouais, c'est vrai. Bien. Black and White. Et puis, il y avait d'autres groupes, dont le groupe à Richard. Il y avait, comment il s'appelait ? Il y avait un type qui s'appelait Dracula. Oh, tout ça, c'est dans le livre. Et moi, je jouais avec je jouais la guitare, mais ce jour-là, je jouais un peu de batterie aussi, parce que mon oncle était batteur dans un orchestre très connu du coin. Et je jouais un peu de tout. J'avais appris le piano d'abord, et puis ensuite, je m'étais mis à la guitare quand j'étais scout, parce que c'était un truc qui était impeccable. Ça plaisait au chef, parce que ça faisait l'animation des veillées. Et je jouais un peu de batterie. J'avais une amie qui s'appelle toujours Mireille Turpeau, qui chantait du François Hardy. Et en toute première partie, parce qu'on était pas les meilleurs, et puis donc il y avait une espèce de hiérarchie. Et en première partie, elle a chanté quelques chansons de François Hardy. Moi, j'étais à la batterie avec un ami qui s'appelait Alain Desgranges, qui est dentiste à Roanne maintenant. Enfin, il est peut-être à la retraite. Et Pascal Fouret, le fils de Fouret, dont la salle Omnisports je suis en train de chercher son prénom, mon ami, qui était guitariste. Voilà. Il y avait deux guitaristes, un batteur, et puis voilà. Mais j'ai bien connu, c'était génial ce truc-là. Il y avait un monde fou, ça a fait le plein. C'est le premier vrai festival rock d'Évreux.
c'était le morceau rockabilly, hein, le rockabilly 54 avec Elvis Presley. Là, c'était Dave Vaughan and the Starnuts. Il nous reste encore une bonne dizaine de minutes pour parler justement du début des années 80. Samedi après-midi, on aura la visite de Gilles Rigoulet et Gilles Laslescope pour un panorama justement sociologique et en photo du début des années 80. 1980, des Teddy Boys débarquent, ni plus ni moins des Hébreuxiens, sont à Évreux. Ils ont un look qui, entre la classe vestimentaire anglaise et puis quelques éléments de la culture américaine, ils écoutent du rockabilly et du rock'n'roll. Et toi, c'est une époque que tu connais aussi, Alain.
Oui.
Et est-ce qu'il y a tu penses qu'il y a une filiation entre la présence américaine à Évreux et ces quelques Teddy Boys ça vient plutôt d'Angleterre.
Oui, plutôt d'Angleterre.
Ça vient plutôt d'Angleterre.
Non, pour moi, c'est... Alors, il y a l'influence américaine, Elvis Presley, on voit bien sur le livre, les photos de Gilles, on voit très bien que dans les chambres des garçons qui sont en photo, on voit des posters d'Elvis Presley, des choses qui rappellent quand même les débuts du rock'n'roll. Quoi. Mais c'était surtout une mode qui venait, je pense, beaucoup des Teddy Boys. Qui vient d'Angleterre un peu.
Et qui vient plutôt de la classe ouvrière.
Voilà. Et alors, c'est la banane exagérée, quoi. C'est Margerin, quoi. Hein. Lucien, si, pour les gens qui connaissent la bande dessinée. C'est-à-dire qu'ils exagèrent tout. Et ils ont tous des par-dessus chinés, genre tweed chine. Et ils ont tous des chaussures bicolores à semelle de crêpes épaisses. Et c'est à celui qui aura la banane la plus monstrueuse. D'ailleurs, le livre, les photos, Gilles, à l'époque, il a eu le réflexe, le bon réflexe, de faire toute une série pour la Dépêche. Gilles, il était pigiste pour la Dépêche. C'est-à-dire, il vendait ses photos, hein, pas très cher d'ailleurs à l'époque, à la Dépêche. Et comme c'était un très bon photographe, eh bien, la Dépêche lui a acheté volontiers des reportages entiers, comme celui qu'il a pu faire sur les Teddy Lévreux. Et moi, je l'ai beaucoup envié à l'époque, parce que moi, je le connaissais et je me suis dit, oui, il a eu l'excellent réflexe de faire toute une série de portraits, de photos sur ces garçons. Ça a été très éphémère. C'était très éphémère, mais c'est une époque, oui.
Alors, à Paris, ça concerne un peu plus de 2000 personnes. Hein, donc, on reprend à l'anglaise un peu cette défiance vis-à-vis du système, des codes établis, etc. Ça concerne combien de personnes dans les années 80, ce look Teddy Boys et cette défiance?
Alors là, il faudrait demander j'allais dire l'ethnologue, non, c'est le celui qui a rédigé, qui a écrit dans le livre.
Gilles Laslescope.
Ouais, lui.
Il parle d'une trentaine hein, dans son livre, hein, mais c'était pour.
Une trentaine de
Teddy Boys dans Évreux.
Ah
donc,
oui.
Donc un phénomène quand même très marginal. Hein.
Très, très marginal. Mais si tu veux, marginal, mais Gilles avait repéré ça parce que lui, de toute façon, il avait l'œil. C'était un photographe. C'est toujours, mais je veux dire, il avait l'œil, c'est-à-dire qu'il a repéré ça, il a vu. Tout ce qui était marginal, ça l'intéressait. Et je connais une partie de son travail de l'époque. Et Gilles, c'était un photographe qui sautait sur toutes les occasions. Il a fait des tas de reportages, entre autres sur la danse sportive à la salle Omnisports. Il y a des photos extraordinaires. Danse sportive, on ne voit plus ça maintenant. C'est très anglais. Les mecs en queue de pie, nœud de papillon. Et les filles avec des robes pailletées et des talons comme ça. Et puis, et Gilles, il cherchait toujours... il avait l'œil et il cherchait les choses qui sortaient de l'ordinaire tout le temps. Il a une photothèque extraordinaire sur toutes ces époques à Évreux, toutes les années 80 où il a bossé. Et c'était je pourrais en parler pendant des heures. C'était un photographe qui avait en plus, je sais pas, il avait, je ne dirais pas de la chance, il savait s'y prendre.
Il voulait devenir styliste automobile, hein, je crois.
Ah, c'est possible. Mais c'est
le problème, il est daltonien, donc ça lui a un peu barré la route de cette carrière.
Écoute, je me souviens d'un concert de Johnny Hallyday sous chapiteau. Je vais raconter ça vite fait. Sous chapiteau au Bélébat. Et moi, je viens vers 17h, 17h30, pour être sûr que quand le concert va démarrer à 9h, je serai au premier rang. Je suis au premier rang. Les gens rentrent dans le chapiteau, les gens rentrent. Et là, on peut plus accéder au premier rang, c'est pas possible. Hein. Devant moi, il y a des handicapés qui sont dans leur fauteuil, qu'on a mis là, c'est la priorité, c'est très bien. Mais pour arriver jusqu'à moi, donc je me dis, je vais avoir les meilleures photos de Johnny pour le journal pour lequel je travaillais, c'est-à-dire en Inter. Et je vois mon Gilles arriver juste avant le concert, il est à 20-30 mètres à l'entrée là-bas. Je lui dis, mon petit gars, pour approcher jusqu'à moi, tu vas pas y arriver. Et ben, 5 minutes après, il était à côté de moi.
Ça,
et il a fait des photos ce soir-là, nettement meilleures que les miennes. Il a fait des photos aussi bien du spectacle, mais surtout de la salle. Et c'est là où il avait l'œil et il avait le bon réflexe. C'est-à-dire que moi, je suis contenté de faire des photos de Johnny et des musiciens. Mais lui, il a fait plein de photos qui étaient des spectateurs. Et il y a une série de photos sur les gens qui adorent Johnny. Johnny, on t'aime, avec des faux, des machins. Il a fait le vrai reportage. C'était lui qui avait fait ça. Et oui, bon, je reconnais que il m'a donné des leçons, lui, de photos. Vraiment, Gilles, il m'a beaucoup influencé à l'époque en tant que journaliste et photographe. Et parce que je regardais ce qu'il faisait. Je lui disais, bon, d'accord.
Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right.
Premier morceau rockabilly, c'était celui d'Elvis Presley, That's Alright Mama, en 1954, pour cette émission consacrée au rock en Normandie du milieu des années 50 aux années 80, à l'occasion de l'avenue de Gilles Rigoulet, samedi après-midi à 14h30 à la médiathèque d'Evreux avec Gildas Lescope. On fera un panorama esthétique et sociologique du genre. Un grand merci, Alain, d'avoir accepté l'invitation de Tour de Piste pour cette première radio. C'était passionnant, c'était un peu court, évidemment, une heure pour parler de tout ça. Quelques annonces avant de se quitter. Ce soir au Tangram, Bob Block Free, hein, notre nouvelle salle de concert à Évreux. À ne pas manquer, un one-man band justement de blues électrique un peu déglingué dans un esprit assez punk. Après-demain, vous retrouverez à 18h30 vendredi sur les ondes de Principe Actif Le Privé à Babylone. On parlera aussi de Mélodie Éthérée puisque ce sera Spaceman Free et ses deux enfants spirituels, à savoir Spiritualized et Spectrum. On se retrouve, nous, Alain, donc samedi après-midi à 14h30.
Volontiers, oui.
J'espère te revoir en radio ici à Principe Actif.
Oh oui, parce que c'est vrai, j'ai des tas de souvenirs, évidemment, maintenant. Ça.
Merci à nos auditeurs, bonne soirée. On se quitte en douceur avec le Blue Moon d'Elvis Presley, l'icône américaine par excellence. À dans 15 jours, salut.
Blue Moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really careful.
blue moon.